Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au programme en français de ce mardi 30 décembre. Bertrand Tungandamé pour vous accompagner ce mardi après-midi. Dans cette édition, nous reviendrons sur la vie et le parcours de Brigitte Bardot, une icône culturelle qui nous a quittés il y a 2 jours. Nous parlerons également de gastronomie, quand la cuisine africaine rencontre la gastronomie française. Mais avant cela, l'actualité de ce mardi après-midi. Dans cette édition, un homme de Fairfield West à Sydney inculpé pour avoir planifié une fusillade en public. En France, obsèques de Brigitte Bardot annoncées, marquant l'ultime duel entre la droite et la gauche. Et Trump menace l'Iran d'une intervention militaire en marge de la visite de Netanyahou aux États-Unis. Un homme de 24 ans a été inculpé de plus de 10 ans de 10 chefs d'accusation pour un projet présumé de fusillade en public dans le sud-ouest de Sydney. La police de Nouvelle-Galles du Sud indique que ces accusations font suite à une perquisition menée dimanche soir dans une maison de Fairfield West, un quartier à l'ouest de Sydney, dans le cadre d'une enquête ouverte au début du mois dernier. L'homme a été arrêté lundi soir, 29 décembre, et conduit au commissariat de Cabramatta. Sa demande de mise en liberté sous caution a été rejetée et il comparaîtra devant le tribunal. Le commissaire de police de Nouvelle-Galles du Sud, Mal Lanyon, prévoit d'autres arrestations.
We believe that it was to be a target attack, and again, my credit goes out to the investigators who have worked tirelessly. Whilst we have been performing the amount of shifts that we have to make sure we quite rightly support the Jewish Australians who are directly targeted at Bondi, but also the rest of the community, our investigations haven't stopped. You will see numerous arrests made by Strike Force, Raptor and other units that are actually keeping the community safe.
Et le premier de la Nouvelle-Galles du Sud a condamné la montée de l'islamophobie suite à l'attaque de Bondi Beach. Chris Minns avertit que le racisme ne sera pas toléré en Nouvelle-Galles du Sud. Il a en outre déclaré que la police est en état d'alerte maximale après des signalements d'insultes et d'agressions racistes visant des membres de la communauté musulmane, notamment des jeunes filles portant le voile dans les transports en commun. Il a précisé que les lois contre les discours haineux s'appliquent à tous et que les auteurs de ces actes seront poursuivis avec toute la vigueur de la loi.
It is disgusting to think that anyone could blame a young person, a young member of our community, a young Islamic girl for the actions of 2 people in Bondi Junction a couple of weeks ago. That is appalling. It'd be like blaming Ahmed Al-Ahmed for the actions of those terrible terrorists on the 14th of December when we all know he's an absolute hero. So I just want to make it clear that racism will not be tolerated. It's not vigilantism, it's not retribution, it's hateful racism in our community.
Le premier a en outre affirmé que la police de Nouvelle-Galles du Sud interviendra rapidement contre tout acte de diffamation raciste. Ahmed Al-Ahmed, l'homme qui a désarmé l'un des tueurs de Bondi et qui a probablement sauvé d'innombrables vies, est revenu sur son intervention lors de l'attaque terroriste. Monsieur Al-Ahmed s'est approché furtivement de l'un des tueurs et lui a arraché un fusil de main avant d'être atteint de plusieurs balles par l'autre tireur. CBS News a interrogé cet Australien d'origine syrienne et de confession musulmane sur son intervention pour sauver des vies juives.
You are a Muslim man who saved Jewish lives.
I save human innocent people. I save innocent people. I don't look for the religion and never think about a religion. When I did this, I did for the innocent human, a human being like us. That's what I know.
Monsieur Alhamed a reçu des menaces de mort et a été la cible d'insultes et d'attaques sur les réseaux sociaux pour son acte héroïque. Certains estiment qu'il n'aurait pas dû intervenir, allant jusqu'à le traiter de chien et de traître. Il a ignoré ces insultes, appelant l'humanité entière à mettre fin au terrorisme, à combattre la haine et à s'unir. En France, la France se déchire sur l'héritage de celle qui fut bébé, alors qu'Éric Ciotti, proche du RN, réclame un hommage national pour la légende du cinéma et défenseur des animaux. Une partie de la gauche, emmenée par Sandrine Rousseau, dénonce le cynisme d'une icône multicondamnée pour incitation à la haine. Entre célébration d'un mythe mondial et rejet de ses positions d'extrême droite, le pays hésite. Comment dire adieu à une figure aussi monumentale qu'irréconciliable ? Valérie Gasse pour RFI.
Éric Ciotti a été très clair dans le message qui accompagne la pétition lancée pour demander l'organisation d'un hommage national pour Brigitte Bardot. L'allié du RN fait de la star l'enjeu d'une bataille politique. Alors que la gauche déverse sa haine contre celle qui a si bien incarné la France, le président de la République doit, écrit-il, avoir le courage d'organiser un hommage national pour notre bébé, les initiales de Brigitte Bardot. Si la mémoire de l'actrice qui avait épousé un conseiller de Jean-Marie Le Pen et ne faisait pas mystère de sa proximité avec le Rassemblement national a été immédiatement honoré par Marine Le Pen et Jordan Bardella qui ont salué une femme incroyablement française et une ardente patriote. À gauche, les condamnations de Brigitte Bardot pour des propos racistes et homophobes ont laissé un mauvais souvenir et ont amené le patron des socialistes Olivier Faure à saluer l'actrice iconique, mais à s'opposer à un hommage national car elle avait, écrit-il sur X, tourné le dos aux valeurs républicaines. La décision revient à Emmanuel Macron en accord avec la volonté de la famille, mais rien ne semble indiquer que Brigitte Bardot souhaitait un hommage national.
Les obsèques de Brigitte Bardot ont été annoncées pour le 7 janvier prochain à Saint-Tropez. Et le président américain Donald Trump a mis en garde l'Iran contre toute tentative de relance de son programme nucléaire, affirmant que les États-Unis réagiraient par la force en cas de réouverture. Donald Trump estime qu'il serait préférable pour l'Iran de conclure un accord avec les États-Unis.
Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down, we'll knock the hell out of them, but hopefully that's not happening. I heard Iran wants to make a deal. If they want to make a deal, that's much smarter. You know, they could have made a deal the last time before we went through, you know, a big attack on them.
Monsieur Trump a tenu ses propos lors d'une rencontre avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Les deux hommes ont discuté du cessez-le-feu à Gaza et des enjeux sécuritaires régionaux. Le cessez-le-feu, entré en vigueur au mois d'octobre, a été marqué par la persistance des violences et depuis, des centaines de Palestiniens et 3 soldats israéliens ont été tués. La Thaïlande et le Cambodge affirment avoir progressé pour mettre fin à des affrontements frontaliers qui les opposent depuis plusieurs semaines. L'avancée est le fruit de pourparlers trilatéraux avec la Chine dans la province de Yunnan, au sud du pays. Cette réunion intervient quelques jours après que les deux parties ont convenu d'un nouveau cessez-le-feu visant à mettre un terme aux affrontements qui ont fait plus de 100 morts et des centaines de milliers de déplacés. Phnom Penh et Bangkok indiquent que l'objectif principal est désormais de garantir le respect et la trêve et d'empêcher une reprise des violences. Le ministre cambodgien des Affaires étrangères, Prak Saknon, a déclaré que ces pourparlers constituaient une avancée importante.
Through bilateral and trilateral discussions, we have agreed that we have achieved a lot so far, and we don't want to return to the past, which means that no one wants to see this fighting happening again. Therefore, what is important is that this ceasefire is permanent and must be firmly respected and implemented.
Si le cessez-le-feu est respecté pendant 72 heures, la Thaïlande rapatriera 18 soldats cambodgiens capturés lors des précédents combats. Retour en Australie, et plus précisément au Victoria, où le personnel ambulancier de Melbourne dit que trop, c'est trop, face à une vague d'agressions visant les secouristes. Ambulance Victoria indique que les agressions contre ses équipes ont considérablement augmenté en fréquence et en gravité depuis novembre. Selon la direction, des secouristes ont été frappés avec leur propre stéthoscope, contraints de fuir les ambulances en raison des dégâts causés à l'intérieur par des patients et récemment piégés dans un véhicule percuté à plusieurs reprises jusqu'à l'arrivée de la police. La directrice régionale, Vanessa Gorman, affirme que la situation a atteint un niveau sans précédent.
The worst I've ever seen it in 30 years of emergency work. And it's probably worse in regards to the severity of what is occurring. I've physically had my wrists broken. I've been spat on, kicked, punched multiple times throughout my career. But I've never seen it as bad as it is now in regards to the severity of assaults taking place. That includes the sexual assault component, which is really shocking.
Ambulance Victoria exhorte la population à faire preuve de respect et de retenue et rappelle que les secouristes ont désormais pour consigne de ne pas s'approcher des lieux d'intervention dangereux ni de les quitter. Les habitants de l'extrême nord-ouest de l'Australie sont invités à se mettre à l'abri alors que le cyclone tropical Hayley se renforce avant de toucher terre. Le système devrait atteindre son intensité maximale en tant que cyclone de catégorie 4, avec des rafales de vent pouvant atteindre les 230 km par heure, alors qu'il se dirige vers la péninsule de Dampier au nord de l'Australie occidentale. Hayley devrait toucher terre ce mardi soir. Et les autorités indiquent qu'il n'est plus sûr de se déplacer dans des zones telles que Bigot Bay, Cockatoo Island et Derby et mettent en garde contre une menace sérieuse pour les vies et les habitations. Il est conseillé aux personnes vivant dans des caravanes ou des bâtiments anciens de se rendre dans des centres d'évacuation ou des hébergements plus sûrs. Sarah Scully, du Bureau des météorologies, explique que les vents devraient orienter le cyclone vers l'est-sud, l'est-sud-est à l'approche des côtes.
Now we have issued a tropical cyclone watch all the way from Broome to Koori Bay. However, we have a tropical cyclone warning from just north of Broome up to Cape Levesque. Now within the warning area, gales may develop within the next 24 hours. So there is the potential for wind gusts up to 100 kilometers per hour to develop.
Et à présent, un coup d'œil météo de ce mardi 30 décembre. Perth, temps ensoleillé avec un maximum de 33 degrés. Adélaïde, nuageux et 26 degrés. Melbourne, partiellement nuageux, 29 degrés. Hobart, averses éparses et 25 degrés. Canberra, temps généralement ensoleillé avec un maximum de 34 degrés. Wollongong, ensoleillé et 24 degrés. Ensoleillé également pour Sydney avec 26 degrés, Newcastle généralement ensoleillé 25 degrés, Brisbane temps ensoleillé avec un maximum de 29 degrés, Cairns pluie et risque d'orage avec un maximum de 29 degrés et averse et risque d'orage cet après-midi pour Darwin avec un maximum de 33 degrés. Nous allons marquer une courte pause, puis nous retrouvons Jean-Noël Ducasse pour l'actualité sportive.
Et on passe au journal des sports de ce mardi avec tout d'abord ce focus sur les matchs de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment au Maroc, avec d'abord un bilan des rencontres du week-end, les matchs de samedi, deuxième journée du groupe C et D, avec le groupe C où le Nigeria qui s'est imposé contre la Tunisie 3-2. Eric Mamrut pour Radio France Internationale.
La vitesse, la technique et la percussion des Super Eagles faisaient mal à des Tunisiens totalement dépassés, surtout par deux hommes, Ademola Lookman et Victor Osimhen. Le premier a tout d'abord délivré deux passes décisives à la 44e minute pour le second. Osimhen qui signait de la tête son premier but dans cette CAN. Une deuxième passe décisive juste après la pause pour Wilfried Didi, lui aussi buteur de la tête. 2-0 à la 50e minute. La démonstration était totale, les Tunisiens KO encaissait même un troisième but à l'heure de jeu par Ademola Lookman lui-même, parfaitement servi par Osimhen. 3-0, le moment choisi par la Tunisie pour se réveiller, bien aidé en cela par les entrées en jeu de Sébastien Tounekti et d'Ismaël Garbi. Montassar Talbi marquait d'abord de la tête sur un coup franc rentrant avant qu'Ali Abdi ne transforme pénalty à la 87e minute suite à une main d'Osaï. Les Tunisiens déchaînés qui rataient ensuite à deux reprises la balle de trois partout. Bref, un match complètement déjanté, surprenant, remporté finalement par le Nigeria 3-2. Les Super Eagles qui assurent ainsi d'ores et déjà leur qualification pour les huitièmes de finale.
Et dans les autres matchs, le Sénégal et la République démocratique du Congo ont fait match nul, un but partout. Dans le groupe C, l'Ouganda et la Tanzanie ont fait un match nul, un but partout. Et le Bénin s'est imposé 1-0 contre le Botswana dans le groupe D. Dimanche, il y avait des matchs du groupe E et F dans le cadre de la deuxième journée avec le nul entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Un but partout, Cédric de Oliveira pour RFI.
Oui, effectivement, pas de vainqueur parce que eh bien les Camerounais et les Ivoiriens eh bien se sont quittés sur un match nul, un partout, dans un duel de rivaux entre deux poids lourds du continent, et on a assisté vraiment à un match très enlevé, d'une grande intensité, et ce sont les Ivoiriens qui ont ouvert le score par Amad Diallo en tout début de la seconde période, une frappe du gauche absolument limpide pour le joueur de Manchester United, et un deuxième but en deux matchs pour lui puisque eh bien il avait déjà marqué face au Mozambique lors de la première journée, mais l'ouverture du score a été de courte durée puisque derrière eh bien les Camerounais ont égalisé grâce à Tchamadou, une frappe déviée par Konan dans son propre but qui a lobé à Yaya Fofana. Ça fait donc un partout entre les deux équipes et eh bien pas de vainqueur dans ce choc donc entre deux grands du continent. Les deux équipes qui se partagent maintenant la tête du groupe F avec 4 points. Tout se jouera eh bien lors de la troisième journée. À noter que eh bien ce résultat provoque la défaite, en tout cas l'élimination pardon, du Gabon, puisque le Gabon avait perdu un peu plus tôt dans la journée face au Mozambique, et donc le Gabon est officiellement éliminé de cette CAN.
Et dans les autres matchs, l'Algérie a battu le Burkina Faso 1-0, le Soudan s'est imposé contre la Guinée équatoriale 1-0, et dans le groupe F, le Mozambique a battu le Gabon. Pauline Guillou pour RFI.
Score final 3-2 pour le Mozambique, qui s'offre d'ailleurs sa première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Depuis leur début à la CAN en 1986, les Mambas avaient enregistré 12 défaites, 4 matchs nuls. Belle victoire donc pour le Mozambique, porté par son numéro 10 Denis Katamo, et buteur et désigné homme du match, mais aussi par l'éternel Mécher en défense, un ancien Rennais âgé de 37 ans qui a disputé sa première CAN il y a 15 ans. En 2010 en Angola et qui gagne enfin un match.
Hier soir, dans le groupe A, dans le cadre de la troisième journée, le Maroc s'est imposé contre la Zambie 3-0. Les Comores et le Mali ont fait match nul 0-0. Dans le groupe B, l'Angola et l'Égypte ont fait match nul 0-0. L'Afrique du Sud s'est imposée contre le Zimbabwe 3-2. Christophe Jousset et Lisa Villy pour Radio France International.
0-0 pour le Mali face aux Comores, un 0-0 plutôt triste malgré les efforts de Lassine Sinayoko notamment. Les Aigles, dominateurs dans le jeu, n'ont pas réussi à marquer, ils se sont même fait peur en fin de match et ont terminé à 10 après l'expulsion d'Amadou Aïdara. Devant un peu plus de 8000 spectateurs au complexe Mohamed V, le Mali n'a pas souvent été dangereux. On a relevé des tentatives de Néné Dorgelès, de Mamadou Sangaré aussi. À l'arrivée, c'est un troisième résultat nul en 3 matchs. Le Mali prend la deuxième place de ce groupe A, mais ses supporters ne sont pas très optimistes pour la suite. Pour les Comores, il n'y aura tout simplement pas de suite. Les Sélakantes n'ont pas marqué le moindre but dans cette CAN. Ils finissent troisième et éliminés. Le vainqueur du groupe, il était à Rabat ce soir. Le Maroc n'a pas laissé la place au suspense. Une tête d'El Khaabi, une reprise de Brahim Diaz. Au bout d'une demi-heure, le Maroc menait 2-0. En deuxième période, El Khaabi a refait le coup du match d'ouverture, un retourné acrobatique. Résultat final, 3-0. contre une équipe de Zambie qui n'a pas cadré un seul tir et qui va rentrer à la maison. Le stade Prince Moulay Abdallah a passé une très belle soirée, d'autant que les Lions de l'Atlas ont récupéré leur capitaine Achraf Hakimi, entré pour la dernière demi-heure et presque buteur. De quoi, dans l'ensemble, rassurer les Marocains et mettre un peu les critiques en sourdine.
Et puis dénouement aussi pour le groupe B. Après l'Égypte, c'est l'Afrique du Sud qui a validé son ticket pour les huitièmes en dominant laborieusement le Zimbabwe et 3-2 à Marrakech. Au même moment à Agadir, l'Égypte, déjà qualifiée, a fait reposer ses cadres en titularisant les joueurs remplaçants qui se sont donc contentés de gérer les assauts de l'Angola. L'Angola qui a cru mais n'a pas pu faire mieux que 0-0. Les Angolais qui peuvent donc encore se qualifier pour les huitièmes avec 2 points. Ils sont encore dans la course à une place de meilleur troisième. L'Égypte termine, elle, première du groupe B devant l'Afrique du Sud. Donc vainqueur 3-2 du Zimbabwe.
Et puis pour terminer ce journal des sports, l'entraîneur du foot français Jean-Louis Gasset est décédé vendredi dernier, vendredi 26 décembre, à l'âge de 72 ans. C'est ce qu'a indiqué le club de Montpellier où il a été joueur et coach. Jean-Louis Gasset avait également dirigé l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Reportage Victor Missistrano pour RFI.
Un regard suffisait. Merci coach, tu vas nous manquer, a notamment déclaré Pierre-Emerick Aubameyang pour rendre hommage à son ancien entraîneur à Marseille. Celui-ci avait auparavant été l'adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux, au PSG ou encore en équipe de France. Il avait également dirigé la sélection ivoirienne et conduit les éléphants à la CAN à domicile en 2024, mais avait démissionné en pleine compétition après la lourde défaite en poule contre la Guinée équatoriale. Une CAN que la Côte d'Ivoire a fini par remporter sans lui.
Et voilà pour le journal des sports de ce mardi. Dans quelques instants, on continue l'émission. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Il est 13h26, 14 secondes sur les antennes de Radio SBS. Vous venez d'écouter Nuit Infinie, une chanson de Lucien Gainsbourg. Puis nous allons parler parcours de Brigitte Bardot avec le professeur Antoine Debac. Il était au micro de nos confrères de RFI dans une émission de Charlotte Hydra.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est ce que disait Brigitte Bardot.
Sur la plage abandonnée.
Écoutez, mon petit, passez une visite médicale et faites-vous délivrer un certificat.
Je ne savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
On n'est peut-être pas doués pour aimer tous les deux. C'est pour ça qu'on s'entend.
Eh bien, voilà. J'étais au cinéma aux Champs-Élysées. Voir un film italien. Mais en sortant, j'ai rencontré une amie de pension. Tu sais, celle que tu trouves idiote. Nous avons été prendre le thé toutes les deux. Tu me crois ?
Mais au premier jour d'été.
Brigitte Bardot, qui s'est éteinte à l'âge de 91 ans, de l'icône féminine à la défense animale, de la lumière à une vie plus discrète, avec des positions politiques controversées aussi. Bonjour Antoine Debec.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous, historien, critique de cinéma français. Vous avez écrit un livre sur Brigitte Bardot et notamment sur ses paradoxes. Avec nous dans ce studio, Olivier Roger du service culture de RFI. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Antoine Debec, Brigitte Bardot, qu'on vient d'entendre, a percé très jeune au cinéma. On se souvient notamment de « Et Dieu créa la femme », c'était en 1956. Une carrière cinéma finalement assez courte, mais très intense et qui marque son temps. En quoi, pour vous, elle incarne une époque ?
Brigitte Bardot, c'est un petit bout de la France qui disparaît, parce qu'elle a incarné précisément plusieurs moments du cinéma, plusieurs époques, entre son apparition à la fin des années 50, qui devient un peu synchrone avec l'apparition d'un nouveau cinéma qui est la nouvelle vague, et puis jusqu'à des films qui ont été des gros succès aussi bien aux États-Unis qu'en France. France. Et puis à la fin, voilà, cette manière de saluer en quelque sorte très jeune, hein, puisqu'elle elle arrête sa carrière cinématographique à 40 ans en fait, hein, au début des années 70. Voilà, Bardot a traversé toute cette époque en étant à chaque fois une sorte de meilleur reflet, de meilleur miroir à sa manière, c'est-à-dire extrêmement personnel, sans jamais en quelque sorte se compromettre avec son temps, mais en étant en elle-même une sorte de provocation permanente, hein, et tout en étant une sorte de radar, quoi, de radar qui dit absolument les évolutions du moment. Et c'est ça qui est fort avec Bardot, bien sûr, au cinéma, hein, c'est alors, cette manière qu'elle a de signifier quelque chose comme un phénomène, quoi, comme une apparition.
Alors une apparition justement en 1956 qui est un véritable coup de tonnerre dans l'industrie du cinéma avec ce film de Roger Vadim et Dieu créa la femme. Tout de suite, Antoine, elle est érigée au rang de symbole ou de sexe symbole pratiquement.
Alors c'est une histoire paradoxale de que et Dieu créa la femme de Roger Vadim. C'est d'abord pour Vadim la manière de créer une femme, voilà, la mademoiselle nouvelle vague, hein, d'une certaine manière, celle de cette femme qui va être un petit peu cette jeune femme qui va être un peu le modèle de son époque. Et ça c'est pas forcément très bien reçu. D'ailleurs et Dieu créa la femme ne va pas être un très gros succès dans sa première exploitation en France. En fait, c'est en passant par les États-Unis qu'il va y avoir un phénomène Bardot.
En 58, deux ans plus tard.
Alors, exactement, le film est en France est reçu de façon très mitigée. Voilà, on le trouve très choquant pour ses scènes déshabillées, pour sa manière totalement transgressif par rapport à la jeune première du cinéma français des années 50, hein, qui est quand même un cinéma assez corseté, très moral comme ça. Et puis le passage par les États-Unis du film qui va être un véritable phénomène, hein, au sens où voilà, la jeunesse américaine, les jeunes gens américains vont complètement élire Bardot comme le sexe symbole de son temps.
Et en 56, la presse anglaise dit disait Bardot est le plus grand choc européen depuis 1789 avec ce film de Roger Vadim. C'est-à-dire que tout de suite elle a une dimension planétaire. C'est pas uniquement l'Hexagone, voilà, un peu rétrograde, encore un peu ancré dans l'après-guerre.
L'Hexagone a plus de mal avec Bardot au début, hein, bien sûr, et ça passe par les États-Unis, par l'Angleterre, par l'Italie même. Et c'est ce choc international, hein, qui, par un effet boomerang en quelque sorte, revient. Et le film, dans sa deuxième exploitation française, va être un immense succès. Oui, Bardot a immédiatement cette dimension planétaire, c'est-à-dire que elle est véritablement le nouveau corps qui apparaît au cinéma. Voilà, cette manière très très franche, très libre de montrer son corps, cette manière tout à fait nouvelle par rapport aux mœurs de l'époque de choisir ses hommes. Hein, ce n'est plus elle la proie, c'est elle la prédatrice en quelque sorte.
Et ça, c'est quelque chose.
Voilà, c'est quelque chose qui est une femme
trophée, on va dire.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et pourtant, elle devient donc une méga star internationale. Et pourtant, il va falloir attendre 1963 pour qu'elle tourne dans un véritable chef-d'œuvre, Le Mépris.
Alors oui, Bardot ne peut être qu'elle-même en fait, hein. C'est ça sa grandeur, c'est ça son apparition, c'est ce côté phénomène, événement. Elle ne peut jouer qu'elle-même, elle ne peut parler qu'à sa manière, elle ne peut apparaître qu'à sa manière, et donc elle aura toujours du mal avec le cinéma qui veut lui donner des rôles, qui veut lui donner des personnages à incarner. Le meilleur exemple, c'est ce film qui est pourtant celle qu'elle préfère, parce que justement elle était actrice. Ce n'est pas une actrice en fait, Bardot. C'est La vérité de Clouseau, hein, en 62, où tout d'un coup elle se sent vraiment actrice, une comédienne, et le film vraiment n'est pas très bon au sens voilà, c'est un gros succès, hein, parce qu'on va voir Bardot actrice, mais les vrais rôles entre guillemets de Bardot, c'est quand elle joue elle-même, c'est-à-dire effectivement en 62 et 63, les deux films que sont Vie privée créée de Louis Malle, où elle joue véritablement son personnage. C'est un film sur le phénomène Bardot et sur le phénomène médiatique qu'elle entraîne. Et puis, d'autre part, dans Le Mépris, où Godard l'utilise vraiment comme une plante, comme il dit, c'est une belle plante. Et il y a quelque chose qui est presque objectif, comme ça, une réification du corps de Bardot. Bon, notamment, bien sûr, dans la scène fameuse qui ouvre le film, qui a été tournée, en fait, dans un second temps, quand Godard, par rapport à ses producteurs qui voulaient du Bardot, leur dit, voilà, je vous donne Bardot, donc une scène dénudée, une scène où elle a cette voix si particulière, et c'est l'ouverture du Mépris qui va être une scène mythique du cinéma mondial.
Est-ce que c'était une grande actrice pour vous?
Non, je pense que ce n'est pas une actrice. Elle-même n'aimait pas beaucoup le cinéma, vous savez. Elle ne se considérait pas comme une actrice. Ce qu'elle aimait, c'était être avec ses amis, ses copains, faire la fête, ou alors tranquille chez elle, dans ses refuges, à la Madrague, à Saint-Tropez, ou à Bazoches, dans sa chaumière. Mais Bardot savait très bien que le cinéma était nécessaire. C'était le moyen de se faire connaître, le moyen de conquérir le monde, elle l'a fait, mais pas comme une actrice. Ça n'a rien à voir avec les grandes actrices, disons, contemporaines, comme Jeanne Moreau, par exemple, avec qui elle a été souvent mise en, parfois en rivalité, comme dans Viva Maria,
oui, en 65.
De Louis Malle. Ce n'est pas une actrice, c'est un phénomène, c'est une apparition, c'est quelqu'un qui ne peut être qu'elle-même. C'est ça,
Bardot,
qui est la grandeur de Bardot.
Une actrice et une chanteuse aussi, qui ne craignait personne.
Non, la Bardot a toujours...
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter.
Vous écoutez Le Français sur Radio SBS.
Vous venez d'écouter un parcours de Brigitte Bardot avec le professeur Antoine Debacque. Il était au micro de nos confrères de RFI dans une émission de Charlotte Hydrac. À présent, une courte chanson avant de parler gastronomique. Mais avant cela, France Gall. Évidemment, c'est la chanson que vous allez écouter, une chanson de France Gall, une composition de son mari Michel Berger, un hommage à Daniel Balavoine.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
On va parler de gastronomie franco-africaine avec Corinne Crouzet de Coco Chef Traiteur. Corinne, bienvenue sur SBS French.
Merci Bertrand.
Vous êtes chef basé à Melbourne, spécialisé dans des mets franco-africains. En fait, une fusion des genres. Parlez-nous de vos spécialités et de ce que vous concoctez qui attire tant de monde.
Coco Traiteur, donc, c'est un mélange de, on va dire, Afrique européen, le mélange de deux. J'utilise plus des épices africaine. J'ai fait mes cours de cuisine à Cannes en 2013. J'ai commencé à Cannes. J'ai évolué à Cannes de 2013 à 2022 parce que je suis à Melbourne depuis 2 ans. Donc c'est un mélange, c'est une fusion de deux continents, on va dire.
les cuisines africaines, c'est souvent des genres épicés, des plats qui mélangent beaucoup de saveurs et tout. Alors que la cuisine française, quelquefois, elle peut être un peu trop tatillonne sur ce qu'elle présente. Et comment vous fusionnez les deux?
Exact, c'est ça la différence. Alors, je peux concocter un même, on va dire, je vais dire, pas du foie gras, on va dire du bœuf bourguignon. Mais qu'en fait, tous mes plats sont personnalisés. Je les ai revisités. Même un plat africain est revisité. Vous voyez, je peux faire du tief, mais je ne veux pas faire du tief comme le tief sénégalais. Il sera revisité. Donc, du coup, tous mes plats sont revisités. Donc, il y a une petite touche africaine et une petite touche, on va dire, européenne, on va dire.
Une touche européenne, mais disons, du riz jollof, comment est-ce que vous allez européaniser ça?
Le principe est le même. Je rajoute des végétaux. Peut-être que les gens ne mettent pas. Enfin, au Sénégal, on ne met pas. Je donne une touche de moi-même. Donc, je mets une petite touche de coco traiteur. Ça va être peut-être ce qu'on n'a pas l'habitude de mettre. Je suis désolée si je massacre le riz sénégalais. Mais j'essaie de... Pour que tout le monde ait accès à cette nourriture. Vous savez, la cuisine africaine, elle est très épicée. Donc, du coup, je m'arrange à ce que tout le monde puisse y avoir accès, tout le monde peut goûter et aimer. Tout le monde ne mange pas le piment, évidemment. Donc, je m'arrange à ce que ça soit vraiment épicé, mais pas trop, et goûteux, et pour que tout le monde aime, que tout le monde trouve son compte.
Ok, moi, il y a un plat africain, en tout cas, qui vient d'une partie de l'Afrique que je connais très bien, dont vous êtes familier aussi, puisque, bon, vous venez de pas loin de là. Le oui. Poulet à la moimbe, ça c'est quelque chose, quand je vais en France, en Afrique, première destination, restaurant africain, poulet à la moimbe, ça qui est, au Congo on en raffole.
Exactement.
Et comment vous allez le fusionner pour le rendre un peu plus européen, ça c'est impossible à traduire ça en cuisine européenne ça.
Exactement. Alors déjà moi le fumé, je vais pas mettre du poulet normal, je vais d'abord le faire fumer maison. Je vais le rendre un peu plus compact, ça va pas être pareil, et je peux rajouter des épinards ou des champignons pour changer, donc pour personnaliser. Mais ça restera du poulet à la moimbe.
Ça reste.
Il faut goûter. Il faut goûter. Je vous convainc pas, mais il faut goûter.
Et,
il faut goûter.
Non, ouais. Il faut goûter. Il faut aimer. Il faut goûter. Mais une fois qu'on a goûté, bon, on devient accro, on peut plus. On se lèche les babines, on se lèche les mains, ça c'est clair.
Exact,
parce que dans la plupart des pays africains, on mange avec les mains, on prend un morceau de foufou, on trempe dans la moimbe et voilà, on avale. Ça fait partie aussi de l'expérience qui peut paraître exotique pour certains. Donc ça, ce sont deux mets que vous venez nous parler de la façon dont vous arrivez à le fusionner entre donc un mets africain, vous fusionnez le genre français, mais les ingrédients, parce que les ingrédients africains, c'est bon, on va au Woolies, au Coles, à Melbourne, ou même dans n'importe quel bon dans les grandes enseignes, il y a rien, tout est, il n'y a pas grand chose.
Je les fais venir. Mes épices voyagent. Je les fais venir de l'Afrique.
Ça doit être coûteux, ça.
Ça range. Et puis là, j'essaie de faire moi-même le chikwang maison, les bâtons de manioc maison, de poulet fumé maison. Je fais tout maison. Donc, j'arrive à trouver des produits sur place, quelques produits que j'arrive à trouver sur place et je compose avec.
Non, le chikwang, ça, c'est impossible. Le chikwang, c'est avec du manioc et puis c'est emballé dans des feuilles spéciales et qu'on fait fermenter d'une façon bien spéciale.
Et oui, j'en fais. J'en ai fait d'ailleurs.
Et ces feuilles-là qu'on utilise, qui poussent près des fleuves, qui ont une saveur, qui donnent une saveur particulière et une certaine consistance. Vous les trouvez ici en Australie?
Non, on trouve les feuilles de bananier. Il y a toujours un plan B, donc j'utilise les feuilles de bananier. Mais le goût, je vous promets, le goût,
d'accord.
Je vous ferai goûter.
Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se procurer vos spécialités? Parce que, bon, vous êtes traiteur, mais si on veut déguster avant de pouvoir peut-être vous inviter à faire du catering pour un événement, je dirais une fête, un mariage ou quoi.
Bien sûr.
Est-ce qu'on peut goûter, avoir une idée de ce que c'est?
Tout à fait. Donc, nous avons une adresse Facebook, nous avons un numéro de téléphone WhatsApp, Instagram et une adresse mail. Coco Traiteur, traiteur avec S à la fin, @gmail.com. Ça, c'est l'adresse. Et le Facebook, c'est Coco Traiteur.
Dire si, par exemple, j'ai envie de goûter à votre chikwang, comment est-ce que je peux m'en procurer?
Je fais des dîners de dégustation chez moi. On organise des dîners de dégustation chez moi ou là où on fait les événements à Rock Band ou chez les gens, on se déplace, on va à domicile.
Et on ne peut pas vous commander une chikwang parce que vous m'avez mis l'eau à la bouche maintenant. Tout
ah
d'un
mais
coup.
Si, on peut.
Et comment ça peut se passer à Melbourne si je peux envoyer un Uber Eats, ils vont m'envoyer de la chikwang?
Nous, on livre, hein. on livre quelques restaurants, donc on peut livrer, on se déplace. On peut livrer.
D'accord.
Du moment qu'on est à Melbourne, donc voilà, tout est possible.
Non, mais si vous livrez pour des restaurants, est-ce que vous livrez aussi pour des particuliers?
Ah, bien sûr, oui. On se déplace, on livre pour des particuliers. On organise des dîners à domicile, on organise des anniversaires, des petits dîners à domicile, des fêtes, on organise tout ça.
Donc vous organisez des événements réguliers, des journées ou soirées dégustation. Parlez-nous de ces événements et où ça se passe.
Le premier, ça s'est passé à Rock Band. Ça s'est très, très bien passé. On avait une cinquantaine de personnes. Il y avait une variété. Donc, j'avais fait un barbecue. Il y avait de tout. Bon, on pense que c'est aux végétariens, donc des légumes pour les végétariens. Du poisson braisé, le porc braisé, l'agneau braisé. On dit chez nous les maboquets, donc en papillote, les maboquets. Et donc voilà, il y a de tout, franchement, il y a de tout. Et ça s'est très très bien passé, c'est pour cela qu'on organise un autre événement ce 2 mars à Rock Band pour faire plaisir à tout le monde.
Oui, d'accord. Non, parce que la cuisine de l'Afrique centrale, c'est assez spécifique, quoi. C'est des mets spécifiques et c'est une cuisine qu'il faut absolument découvrir. Parce qu'ici, on a des restaurants ghanéens, il y a des restaurants nigériens, il y a beaucoup de restaurants éthiopiens, notamment à Footscray, à Fitzroy et tout ça. Très peu de spécialités d'Afrique centrale.
Ah oui, ça c'est vrai. Et je fais même du ndolé. Vous voyez, vu que mon mari est camerounais, donc voilà, je fais du ndolé. On fait un peu de tout, on pense à tout le monde. Donc, je ne fais pas que la cuisine, on va dire, congolaise. Déjà, il n'y a pas les feuilles de manioc, le pondou, le saka-saka. Mais je fais du ndolé, on fait le poisson salé, donc le makayabu, sauté. On fait un peu de tout pour que tout le monde se retrouve. On est varié, la cuisine est vraiment variée.
Ouais. Le makayabu, c'est le cabillaud, hein.
Exact, le bacalhau, la morue fumée.
Oui, la morue fumée, c'est bacalhau au Portugal et au Brésil.
Voilà, bacalhau au Portugal, exact.
On fait ça, je me souviens lors d'un voyage, du bacalhau avec des haricots blancs ou différents mélanges.
Voilà, des pommes de terre sautées.
Ça c'est dégusté absolument.
On fait des jus maison aussi, donc ma signature c'est le ginger, le jus de gingembre, et on fait des jus de carottes, on fait le jus de bissap, tout est fait maison, pour accompagner nos mets, donc du coup on fait des jus maison.
Et avant de nous quitter, peut-être un mot de la fin, est-ce qu'il y a une chose que vous voulez ajouter à cette conversation?
Voilà, je demande juste à ce que les gens puissent venir découvrir, parce que il y a des gens qui sont peut-être réticents, qu'ils puissent venir découvrir à cette cuisine variée, là, on va dire la cuisine du monde, parce qu'il y a un peu de tout, il n'y a pas que les Africains, il y a de tout, honnêtement, on a des amis australiens aussi qui viennent manger, donc du coup, j'invite aux gens de venir déguster, de venir goûter à ces mets-là, ils ne seront pas déçus.
Caroline Crozet, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. On espère vous voir bientôt à l'une de ces journées dégustation.
Bien sûr, on se dit à très bientôt, Bertrand.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Toute la femme, tu vois, toute la femme de ta vie.
Et c'était toutes les femmes de ta vie, une chanson de Julien Doré. Place à présent au rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi 30 décembre. Un homme de Fairfield West à Sydney, inculpé pour avoir planifié une fusillade en public. Et en France, obsèques de Brigitte Bardot annoncées, marquant l'ultime duel entre la droite et la gauche. Et le président Donald Trump menace l'Iran d'une intervention militaire en marge de la visite de Netanyahou aux États-Unis. Voilà, notre émission touche bientôt à sa fin. Je vous invite à continuer la conversation sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter et aussi de consulter notre site internet sbs.com.au/French. Sur cette plateforme, nous avons du contenu qui ne passe pas sur antenne quelquefois et nous continuons à renouveler nos contenus sur cette plateforme. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis cet après-midi dans cette émission qui est la dernière de l'année 2025. Au nom de toute l'équipe de SBS French, nous vous souhaitons une bonne fin d'année, une agréable année 2026. Merci, bon après-midi et à très bon bientôt et surtout bonne année. Et je vous laisse en compagnie de Luan dans la pluie.
Est-ce que tu m'aimes encore? La pluie coule encore à mesure que nos cœurs se dévorent.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.